Qu'est-ce que l'histoire ? C'est un voyage dans le passé en enfilant la peau des autres pour se mettre à leur place.
Le témoin de ce vendredi, Pierre Lascoum, le sida côté aide.
Bon, on parle du sida, moi je préférerais parler des personnes atteintes. Moi je prendrais mon exemple, je ne peux plus travailler vu mon état de santé, bon, ça a été reconnu par le médecin, etc. Et donc je suis malade, j'ai plus de ressources, je fais quoi ? Eh ben, je me tourne vers les associations. Soit, bon, effectivement, je me tourne vers ACT UP pour dire il y a un problème, il faut qu'on s'en occupe. Soit je vais voir aide pour payer mon loyer, etc. C'est un peu ça aussi quand même la situation des malades du sida aujourd'hui.
Rappel d'un vieux dialogue de cinéma, de quoi est-il mort ? Du sida ? De quoi veux-tu qu'on meure aujourd'hui ? Le cinéma est en train d'ailleurs de réveiller une mémoire commune que la société avait largement oubliée. Cette rentrée, Robin Campillo nous jette à la tête l'histoire d'ACT UP dans 120 battements par minute. Mais de chacune des associations de lutte contre le sida, on pourrait faire un film. Dans l'ordre chronologique, ce furent Vaincre le sida, 1983, Aide, 1984, Arcade Sida, 85, ACT UP, 89. Il y en eut jusqu'à 100. Toutes intervenaient dans une société de l'image. ACT UP s'était fait une spécialité d'organiser des apps, des actions, qui produisaient de l'effet devant les caméras. Mais Aide devait en passer par les demandes des journalistes paresseux. T'aurais pas un homo qui fasse pop aider ou une femme séropositive ayant des enfants ? Comme naguère pendant les guerres civiles du Congo, y aurait-il une rescapée qui a été violée et qui parle anglais ? Il fallait pourtant gagner cette bataille de représentation. De jeunes hommes qui s'allongent sur le macadam parce qu'ils vont mourir, une corne de brume et hop, ils se relèvent. Le récit que donnait à voir ACT UP était utile pour les autres combats, parce qu'il fallait aussi accompagner les malades. Aide jusqu'à 3500 volontaires à son apogée. Il fallait faire avancer la conversation avec un personnel médical qui n'était pas habitué à avoir devant lui des malades experts. Il fallait obtenir des avancées précises en matière de traitement, de droit. Les distinctions entre associations sautaient aux yeux, mais elles furent complémentaires et au final, elles élargirent les droits de tous.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
Pierre Lascoum, bonjour.
Bonjour.
Je vous présenterai tout à l'heure professionnellement, mais vous êtes connu sur les antennes de Radio France. Venant de Suisse, où vous travailliez à l'université de Genève, il se trouve que vous vous installez au début des années 1980, rue du Temple, à Paris. Vous vous trouvez, comment dire, à l'épicentre. J'aime bien le mot tremblement de terre plutôt qu'épidémie. À l'épicentre.
Oui, la situation était complètement paradoxale. Moi, je n'avais pas du tout choisi ce lieu parce que c'était, enfin, parce qu'il y avait des particulièrement enfin, une animation de café ou de restaurant gay, mais parce que voilà, c'était le quartier qui m'intéressait. Mais il y avait là une contradiction donc entre d'un côté les effets de disons de la suite de 68 et la libéralisation des mœurs qui en a suivi et qui s'est beaucoup disons développée dans les années 70. Donc là ce qui était frappant c'était tout ce qui était avant de l'ordre du privé et du caché entrer dans l'espace public pour dire ça très très rapidement.
Et les conversations ensuite ont été très vite orientées après le tremblement de terre sur ce qui se passait soudainement d'abord aux États-Unis pensait-on et puis dans ce quartier du Marais. C'est une des plus belles chansons, vous allez vous en souvenir en l'écoutant, qui a été consacrée à l'hécatombe Julos Bocarn.
Tu barres sans cesse des noms dans ton carnet d'adresse. Plusieurs fois sur le mois, tu suis un enterrement. Tes copains de 20 ans ont fait la malle, tu restes. Mais les docteurs te disent, t'en as plus pour longtemps. Devant le Père Lachaise, tu déposes une pierre. Terriblement tombale, où tu tagues ces mots. L'État investit. Ton avenir jeunesse, faites-nous de la plage les morts, on arrivera bientôt.
On sait qu'en 83, donc à Pasteur, on arrive à isoler le virus HIV. Et donc, c'est vrai que les débuts des années 85, en plus, y a aussi une crise économique très 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 forte, hein, qui fait que je me mets à vivre une vie au jour le jour. Simplement, ici, par exemple, où j'habite, on me coupe l'électricité, on me coupe le téléphone, donc je deviens ce qu'on appelle un nouveau pauvre. Et en plus, avec le fait que il s'agit de s'occuper des amis qui et puis aussi de s'interroger sur comment on va pouvoir accepter cette mort annoncée sur notre génération.
Et vous qui croyiez en arrivant dans ce quartier à Paris connaître une vie nouvelle?
Oui, donc la situation était très paradoxale puisque on découvrait des informations de façon complètement dispersée, surtout dans Libération, un peu dans le Guépier, en sachant aussi que les groupements homosexuels à l'époque avaient une attitude ambivalente puisque c'était presque vu comme une provocation, voire une manipulation. Enfin, au moment où les mœurs se libèrent, en même temps, on peut dire une sanction majeure qui intervient ou une menace majeure. Mais pour moi, les choses ont vraiment changé à partir du moment où, autour de moi, les choses se sont concrétisées. Donc, c'est au tout début des années 80, je pense, 85, il y avait eu la mort de Foucault en 84. Début 85, un grand ami avec qui je faisais de la danse depuis très longtemps, etc., qui était d'origine sud-américaine, qui allait beaucoup aux États-Unis et soudainement tombait très gravement malade, la salpêtrière, et il est mort en quelques mois, mais en très peu de moi, je me souviens plus très bien, mais enfin c'est le côté virulent. Puis on commençait à entendre, être confronté à des situations de ce type-là.
Pas de traitement à l'époque, il faut insister là-dessus. Les trithérapies sont arrivées et se sont généralisées beaucoup plus tard, 96. À l'époque, c'est oui, la ZT, même, rétrovir, ça veut dire arrière l'homme, rétrovir.
Oui, mais et même la ZT c'est 87, donc ouais. Là on est au tout début, il n'y a juste rien. Et les médecins sont les services hospitaliers, dont la salpêtrière, parce qu'ils étaient spécialisés dans les maladies infectieuses d'origine coloniale, etc., ont été les premiers à investir là-dedans et à accepter des malades qui pour eux, pour lesquels ils n'avaient quasiment pas de solution thérapeutique.
Par le biais de vos relations professionnelles, dont on parlera tout à l'heure, vous rencontrez Daniel Defer, le compagnon de Michel Foucault, dont vous avez rappelé la mort, et qui fonde peu après l'association AIDE, et dont vous appréciez toujours le côté 360 degrés. C'est quelqu'un de fer qui voit tous les aspects.
Ouais. Moi, je connaissais son action auprès des prisons, ce qu'il avait mené avec d'autres. Enfin, on peut dire qu'il était quand même en grande partie l'inspirateur et l'animateur de tout ça dans les années 71-72. Et il y avait déjà cette idée de donner la parole aux détenus, de partir de ce qu'ils constataient, de leur souffrance, de leurs besoins, et de rendre ça public et de leur redonner une dignité. Et je pense que c'est ce ressort-là, entre autres choses, qui, par rapport à l'épidémie, va le conduire à formuler les choses en disant, c'était un de ses nombreux slogans, le sens de la formule, la libération sexuelle, ce n'est absolument pas l'alpha et l'oméga, l'épidémie ne se résume pas à l'homosexualité ou à l'usage de drogue, c'est tout un ensemble de questions qui sont posées depuis les relations à la médecine, le développement de la science, les relations aux familles, la fin de vie, le rapport à la mort, à la souffrance.
La première grande activité d'AIDE, c'est une consultation téléphonique. Il fait souvent, d'ailleurs, de faire référence à la radio de nuit, Gonzague Saint-Brice, qui a tenu son meilleur rôle à Europe 1 dans ce statut de consultant, et puis Macha Béranger. Daniel Defer, parlant dans les nuits magnétiques à France Culture de la consultation d'AIDE.
AIDE, bonsoir.
Les premiers appels, c'était un ami et peut-être infecté. Un jour, quelqu'un a appelé en disant « Je suis malade ». Un appel dans la nuit, une voix « Monsieur, j'ai 17 ans, j'ai le sida, est-ce que je vais mourir ?» Et rien qu'une phrase comme ça, vous êtes emporté. Alors, je lui pose des questions pour savoir qu'est-ce qui lui permettait d'affirmer qu'elle avait le sida. cette pauvre enfant était une petite beurre de la banlieue parisienne qui venait de subir une interruption de grossesse. Et alors lors de cette interruption de grossesse, l'hôpital lui avait fait, sans lui demander son avis et sans la préparer, un test de recherche des anticorps et avait découvert, elle avait eu quelques pratiques toxicomanes, qu'elle était séropositive. Et elle nous appelait d'une cabine téléphonique avec toute sa famille autour d'elle et je l'entendais au téléphone traduire en arabe et traduire en français les questions de sa famille. Alors, lorsque je commençais à lui faire comprendre qu'entre la séropositivité et le sida, il y avait de grandes différences, et je sentais sa voix progressivement se soulager, elle traduisait à sa famille, et à la fin, il y a eu cette question absolument bouleversante. « Monsieur, est-ce que je peux prendre encore mes petits-neveux, mes petites-nièces sur mes genoux ?»
Et vous, à quoi pouvez-vous être utile? Plus tard, vous serez président d'Aide Île-de-France. Mais pour l'heure, vous apportez vos ressources professionnelles. Alors, vous êtes un sociologue du droit, vous aimez mettre le droit en situation, vous avez participé aux boutiques de droit telles qu'elles existaient dès avant l'épidémie du sida, et là, vous allez vous occuper du secteur juridique.
Oui, donc c'est un ami qui était avec qui j'avais travaillé dans les boutiques de droit, on peut dire son nom, Christian Revon, quelqu'un de remarquable, qui était aussi un ami de Daniel Defer, et celui qui a écrit les statuts de Aide. Et donc par lui, j'étais au courant de ce qui se passait, et donc il m'a incité, j'y suis allé à partir de 1987, aller voir, il y avait le aussi Daniel Defer et l'OMS, et les, enfin inspiré aussi par ce qui s'était passé aux États-Unis. GMHC ou le Terence Higgins Trust à Londres.
Juste un exemple. Un jour, un monsieur très digne, cravate club, arrive au service juridique et vous êtes là avec un autre volontaire. Parce volontaire, que ouais. Au mieux être deux pour supporter. C'est comme dans les consultations téléphoniques, ce qu'on entend.
Et ce monsieur vient nous remercier de la part de son fils qui était décédé. Et il nous remet un chèque d'un montant important, je me souviens plus très bien, en francs, mais enfin c'était de l'ordre de 20 000 ou 30 000 francs. Et il nous explique que en fait son fils était venu à la consultation juridique de Aide et que nous l'avions bien conseillé parce que il commençait à avoir des problèmes professionnels, il y avait des absences, etc. Il devait subir des examens et nous l'avions incité à aller voir son médecin du travail et à assumer sa situation, donc il avait besoin de soins. Et le médecin du travail avait bien fait le travail, et donc son patron lui avait donné un congé de longue durée, pour ce qu'il soit. Malheureusement pour lui, il est décédé, c'était les tout débuts, hein. Donc on doit être dans la période, je pense, 89-90, il est décédé très rapidement, et il avait demandé à son père donc de ou peut-être même pas d'ailleurs, je pense que c'est une initiative de la famille, enfin comme il était prévu dans la convention collective qui est un petit capital qui soit remis à la famille, que cela nous soit donné. Ça, c'est une chose. Bon, c'était déjà très touchant que ce père vienne nous remercier. Et puis, au moment où ce monsieur se lève, donc extrêmement digne, très, très ému, bien sûr, je vois qu'il a les larmes aux yeux. Nous levons aussi tous les deux. Et il nous dit, j'espère que mon fils a rencontré des gens comme vous. Et il y a eu un silence comme ça. Il est parti après. Donc, nous avons compris qu'au fond, c'était bien des drames aussi de cette situation au sens social. C'est-à-dire que les parents n'avaient aucune idée du monde dans lequel vivaient leurs enfants homosexuels. Où il s'agit de drogue et que c'était pour eux une source en fait d'angoisse. Et que tout d'un coup, il était en face de gens qui, pour lui, étaient des gens ordinaires.
De faire parler, le mot n'est pas si savant, d'intensification affective. Barbara, à la même époque.
Si s'aimer d'amour, c'est mourir d'aimer, sans mourir d'amour, sida, sida née. Elle est année d'amour, à mourir d'aimer, ils sont morts d'amour. D'amour, sida née. Oh, sida, 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 danger, sida. Oh, sida, sida, amour à mort. Oh, sida, sida, sida. assassin recherché, mais qui a mis l'amour à mort, mon amour malade, ma douleur d'aimer, mon damné d'amour, sida, sida né, à vouloir t'aimer, d'amour à mourir, j'en mourrai peut-être, sida assassiné.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
Anniversaire de la mort de Barbara, sur les écrans un film d'Amalric et puis sur les écrans aussi 120 battements par minute. Mais nous, avec Pierre Lascombe, nous parlons du sida, non pas côté ACT-UP, mais côté aide. Le sida pose des questions à tout le monde. Le sida, ce ne sont pas seulement les homos, ce ne sont pas seulement les drogués. Dans les volontaires qui vont intervenir dans l'accompagnement des malades, dans la présence dans les hôpitaux de l'association AIDE, il y en a eu jusqu'à 3000, 4000, quand vous étiez président de SIDA Île-de-France, il y avait des gens très divers. La volonté d'élargissement était constante.
Oui, il y a les. Enfin, je pense aussi ce, pour faire le lien avec ce monsieur dont on parlait, c'est sûr qu'il est. Il avait. Après, nous avons appris, il avait parlé avec des gens. Il y avait une pièce qu'on appelait un peu prétentieusement le salon, qui était le lieu d'attente. Et donc, il avait été extrêmement étonné de la diversité des gens qui étaient là, la diversité d'âge. Il y avait une assez forte proportion de femmes volontaires. Il y avait aussi des étrangers, puisqu'il y avait très tôt des groupes de femmes africaines, etc. Puis la question des étrangers en situation irrégulière. Bref, il y avait une diversité souvent assez régulièrement, des personnes qui avaient été aidées par aide, qui étaient venues en consultation, sont devenues volontaires après, ou bien des membres de leur famille, ou bien de leurs amis.
Ici le témoignage, toujours dans les Nuits magnétiques de 1988, de Lorenzo, volontaire d'aide, qui accompagne toujours les jeunes issus de l'immigration, entre guillemets, Farid.
Il n'avait pas d'argent, il était démuni, il avait une mycose qui le ravageait tout le corps. Il ne pouvait plus mettre de chaussures, c'était épouvantable. Il avait une tenue vraiment négligée. Puis d'un seul coup, petit à petit, il a changé. Et il était bien. Et dans la formation que j'ai vécue, on nous a dit, quand les malades se sentent bien, il faut pouvoir se mettre un peu à l'écart et de laisser vivre le malade avec son entourage, avec sa famille. On doit être toujours présent, disponible au malade, mais on ne doit pas s'inquiéter sur lui trop, que ça soit une chose, quoi, c'est une autre chose. Et comme je me suis aperçu qu'il était bien, qui pouvait se débrouiller seul, et je l'ai laissé. Et est-ce que je peux dire que je suis malade?
Oui, bien sûr, est-ce que vous avez envie?
On continue. On peut parler de Farid toujours. Il a failli me bouffer, je dois l'admettre. Hein, il m'a beaucoup aidé.
Et est-ce que nous pouvons raconter nos souvenirs d'hôpital, Pierre Lascombe? Parce que ça a été assez extraordinaire, les hôpitaux, les salons, entre guillemets, à côté du bureau de la surveillante, les volontaires d'aide, les accompagnateurs des malades, tout le monde discutant, apportant le frichti, se cotisant pour acheter un four à micro-ondes et provoquant une transformation du rapport avec le personnel médical.
Oui, c'était... On peut considérer que pour évidemment pour les personnes directement, disons, touchées, concernées, c'était un choc immense, mais ça l'était aussi pour le personnel médical et pour les chercheurs, de se trouver dans une situation, alors qu'on était, on peut dire, dans une période de médecine glorieuse, où les antibiotiques et tout un tas d'autres produits et savoir-faire médicaux avaient rendu la médecine opérante. Tout d'un coup, ils étaient confrontés à une situation face à laquelle ils n'avaient pas de réponse, à part la meilleure empathie possible, puis aussi beaucoup d'exigences professionnelles professionnels. C'est vrai que enfin, tous ces médecins, ces infirmières, etc., se battaient avec le... D'ailleurs, on le voit bien dans le film, les 120 battements sur la fin de vie de ce garçon. Voilà, il n'arrive pas... Il a une infection, on n'arrive pas à l'identifier, elle s'amplifie, finalement, il meurt, et ça a quand même duré jusqu'au milieu des années 80, c'était...
Là, je vous fais revenir au milieu des années 80, il faut quand même ne pas négliger les risques de rejet qui se manifestaient de toutes parts. Le patriarche gourou escroc proposait des fermes de concentration pour le redressement des sidaïques, ainsi parlait Jean-Marie Le Pen, qui lui recommandait les sidatoriums. Et c'est à ce moment-là que la droite, je dis la droite, pas l'extrême droite, devient majoritaire aux législatives de 86, et que, sous l'autorité de Jacques Chirac, la nouvelle ministre de la Santé est le docteur Michel Barzac.
Est-ce que ce n'est pas le moment, au fond, de que la société française, que le gouvernement, que l'ensemble des Français parlent de sexualité sans tabou? Est-ce que ce n'est pas une formidable occasion?
Je crois que c'est le moment de sensibiliser l'ensemble de la population au problème du sida, pour plusieurs raisons. Vous savez, d'abord, je suis exaspérée qu'on parle d'épidémie comme si c'était une maladie qui s'attrape comme le typhus ou comme le choléra. C'est un mal évitable. Évitable. Il suffit pour cela de changer un certain nombre de comportements. Donc qu'est-ce qu'il faut ? Pour arriver à cela, il faut faire comprendre comment on attrape le sida. Faire comprendre aux jeunes qu'ils ont aujourd'hui à prendre, à réfléchir à ce que sera leur vie sexuelle et à faire les choix qui seront les leurs. Il y a donc, si vous voulez, tout un travail d'une sensibilisation collective qui est importante. Et elle est d'autant plus importante, Anne Sinclair, qu'on est en train de voir poindre, vous savez, des vieilles lunes qui sont celles du rejet, qui sont celles de la quarantaine, qui sont celles de... Et face au sida, on va le voir poindre encore plus fort que le reste.
Déclaration après déclaration, ici c'était sur 7 sur 7, Michel Barzac a imposé le sida comme une grande cause nationale. Et comment réagissez-vous, vous, association, vous cherchez une conversation avec le ministère de la Santé, des conférences communes?
Alors il y avait déjà beaucoup de, enfin un certain nombre de contacts avant l'arrivée de Michel Barzac, puisque tout le monde était en quête d'informations, donc il y avait des réunions mensuelles où étaient conviés les meilleurs médecins, chercheurs, par exemple. C'est dans une de ces conférences qui a été pour la première fois posée la question des risques de contamination liés à la transfusion sanguine. Elle va apporter à elle beaucoup de choses. En mesure concrète, il faut quand même rappeler qu'à cette époque-là, la publicité en faveur des préservatifs était interdite. Il n'y avait pas d'accès gratuit aux seringues dans les pharmacies, etc. Elle va mettre en place le 100%. L'autre grande question, donc, à laquelle elle fait référence au début, c'est la question de la discrimination. Et là, ça va être un peu plus tard, avec l'arrivée de Monsieur Évin, où une disposition législative en 1990 va étendre aux motifs de santé les dispositifs qui existent et les sanctions pénales qui existent pour les autres formes de discrimination religieuse, ethnique, etc. Et ça aura un impact très important.
Alors ACT UP, parlons un instant d'ACT UP, pouvait dire d'aide que c'était des bonnes sœurs qui faisaient de l'accompagnement dans les hôpitaux
et qui étaient vendues au pouvoir d'État.
Vendues au pouvoir d'État. En même temps, ACT UP aussi a fini par accepter les rencontres, les négociations sur les essais cliniques. Vous, si on poursuit sur l'aspect des droits, et si on prend un exemple, secteur juridique, c'était votre spécialité, l'assurance. Un président d'ACT UP, quand il est mort, Clouse Vallet, a demandé qu'on disperse ses cendres sur le buffet qui était donné à un congrès d'assureurs. Et vous ?
Alors justement dans cette loi de 1990, les assureurs, lobby extrêmement efficace, avaient obtenu que les mesures antidiscrimination ne leur soient pas appliquées. Donc, il gardait la possibilité, disons, de sélectionner les risques, et c'était pour tous les risques santé, c'était pas pour le sida en particulier, c'est surtout les personnes atteintes de cancer, ou les personnes qui ont eu des opérations, cardiaques graves, etc., etc., tout ce qui présentait des risques élevés de cancer. Et les assureurs voulaient gérer ça par eux-mêmes, sans avoir à rendre compte ni de leurs critères, ni de finalement... de la hiérarchie, parce qu'à partir du moment où, par exemple, on savait très bien dès cette époque-là que il y a une dégradation dans la gravité des cancers, enfin, etc. Donc, l'idée de personne à risque ou pas, risque acceptable, comment, etc. Donc, ça, pour nous, on peut dire, ça a été une histoire très, très compliquée. Mais, pour finir sur des choses positives, enfin, un de nos premiers groupes juridiques de aide, ça a été de faire condamner les assureurs, et ça a eu quand même une grande importance en 1992, en faveur d'un couple auquel on avait refusé le remboursement d'un prêt sous prétexte qu'ils avaient fait une fausse déclaration intentionnelle au départ. C'est-à-dire que les assureurs bluffaient, il n'y avait pas de questionnaire, dans le questionnaire de santé, il n'y avait rien qui portait sur le sida.
La lutte des associations, on pourrait disserter longuement là-dessus, a eu beaucoup de conséquences pour tous, en matière d'emploi, en matière d'assurance, en matière de transmission, le mariage pour tous, c'est d'abord le Pax, on l'oublie aujourd'hui, origine ce moment. Aujourd'hui, d'un mot, Pierre Lascoum, il y en a chez Aide, parce que Aide et ACTOP existent encore, malheureusement, entre guillemets, puisque le sida existe toujours. Disent qu'il faudrait, par provocation, parler de fin de l'épidémie.
Oui, c'était l'ancien président de Aide qui pensait qu'aujourd'hui le problème principal, c'est qu'il existe en France, on considère 150 000 personnes séropositives qui ignorent leur état, on découvre chaque année à peu près 6 000 séropositivité. Et donc, lui plaidait sur une incitation extrêmement active au dépistage et à l'information. Et il a, avec, disons, le peu de volontaires qui restent, mis en place aussi bien de l'information sur les lieux à risque, c'est-à-dire aller vers les gens, aller vers les personnes qui redoutent toujours le système médical, etc., leur proposer des tests minutes.
Et qu'est-ce que ça donne comme résultat?
Bien, écoutez, par rapport au centre de dépistage anonyme et gratuit, on détecte deux fois plus de séropositifs dans ces investigations.
Dans les chiffres officiels qui parlent de 6 000 contaminés par an. Oui. Et puis, il y a toujours 1500 morts par an. Merci à vous, Pierre Lascoum. Ce que m'a fait le sida, je sais que c'est une émission un peu remuante pour vous. Elle était préparée par Alexandre Chenet, Ilinka Negulesco et Léa Jousseau.